au message. Et il y a un verset qui, qu'en le lisant, ça m'a vraiment touché. Il se trouve dans un roi, chapitre 3. C'est Salomon qui a préparé les temples. Il a tout préparé pour le Seigneur. Le Seigneur, il a vu toutes ces choses-là. Et au chapitre 3, au verset 5, voilà ce que le Seigneur il dit à Salomon. Il dit quelque chose que j'aimerais bien, et vous aussi, que le Seigneur il nous dise la même chose. Mais est-ce que nous allions répondre la même chose que Salomon? Qu'est-ce que c'est que Dieu là, il a dit à Salomon? Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ah. Imaginez-vous que Dieu vous dise ça. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Ah, un bon mari, une bonne femme, une belle voiture, une belle maison. Qu'est-ce qu'il a demandé Salomon? Et voilà. Mais on peut lire tout le reste du chapitre. Hein? Et voilà ce qu'il a demandé Salomon. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. » Voilà ce qu'il a demandé. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Pour faire quoi? Pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Un cœur intelligent. Et le Seigneur, cette demande de Salomon, il a plu, Seigneur. Parce qu'il n'a pas demandé des richesses. Il n'a rien demandé de toutes ces choses-là. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Si tu marches selon ma volonté, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Voilà ce qu'il a demandé Salomon. Il était le roi et il a demandé un cœur droit pour pouvoir guider son peuple. Et le Seigneur, il a dit, voilà, tu ne m'as pas demandé ni richesse ni rien. Je te donne ce que tu m'as demandé. Et en plus, Salomon, il avait le même cœur que son père David. Dans les psaumes 23. Hein, lorsque David il dit « Ma coupe déborde. » Comme l'a dit le frère aussi, hein, Dieu, il est là. Dieu, il pourvoit à tous nos besoins. D'ailleurs, il nous le dit, « Ne vous inquiétez pas. Faites connaître tous vos besoins. » Le Seigneur est là. Ça, c'est Salomon. Voilà. Mais aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous que le Seigneur, il nous dise cela. Demande ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est qu'on va demander aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Et quels sont les désirs qui nous animent à chacun de nous? Et ce message, je l'ai tiré de l'Épître aux Philippiens. Et j'ai vu les désirs qui animaient le cœur d'épaule. Vous connaissez tous ce qui s'épaule, hein? Hein? Le grand évangéliste, les grands docteurs, les grands pôles. Que lui-même, il se disait, je suis rien, moi. Celui qui est quelque chose, c'est Christ. Quels étaient les désirs de Paul? Et Paul, il nous l'a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et a remarqué pendant le message qu'on va voir, tous les désirs de Paul, ils étaient centrés sur qui? Sur Christ. Car si nous avons les pensées de Christ, les désirs de Christ dans notre propre vie, notre vie sera réjouissante. C'est ça que le Seigneur il attend de nous. Regardons un peu les désirs de Paul. Quels étaient ces désirs à Paul? Prenez l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, chapitre 1. On commence le chapitre 1. On va regarder que dans cet épître aux Philippiens, et on va voir les désirs de Paul. Qu'est-ce que c'est que Paul il souhaitait? Au verset 21, regardez ce qu'il dit. Il dit, Christ, on peut lire le 19, hein, pour qu'on puisse comprendre de quoi il parle. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. 21. Car Christ est ma vie. Et mourir, mais en gain. Quel était le désir de Paul ici? Et c'est clair, hein? Vivre Christ. Vivre Christ. Dans la vie qu'il menait, parce qu'il attendait la mort, la persécution, et il a dit, soit dans la vie, soit dans la mort. L'important, c'est que je puisse vivre ce que Christ a vécu. Et exactement cela que Paul il a vécu. Il a été un témoin fidèle en toutes choses. Il a été persécuté. Mais lui, il dit, il m'importe peu ce qui peut m'arriver. Et même dans ses souffrances, il disait, ces souffrances-là, ces peines, je les dédie au Seigneur. Et alors il dit, car Christ est ma vie. Est-ce que c'est le même désir que nous partageons dans notre vie, tous les jours? Est-ce que nous vivons Christ? Il y avait ce très beau livre, hein? Que ferait Jésus à ma place? Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un très beau livre. Il montre, c'est un témoignage de quelqu'un qui, à chaque occasion, il s'est posé la question, que ferait Christ à ma place? C'est ça, vivre Christ. Et le désir de Paul, ce n'était pas d'avoir une vie agréable. Il dit, vivre Christ. Et Christ, nous savons qu'il a vécu une vie agréable à Dieu, une vie selon la volonté de Dieu. Et c'est ça, le désir qui animait premièrement Paul. Est-ce que nous avons ce désir? Partager ce que Christ a vécu. Car Jésus, il est venu ici pour nous montrer la voie. Il est venu ici pour nous montrer ce qu'il est, Dieu. Je m'en vais au Père. Montre-nous le Père. Regarde-moi. Ça fait 3 ans que je suis auprès de toi. Tu veux voir le Père? Regarde-moi. C'est ça que Jésus est venu montrer. Le Père, Dieu que personne n'a vu. Mais Jésus, il est venu et il nous l'a montré. Et il a vécu pour lui. Et Paul, il a pris Christ comme exemple. Quel est le résultat de Paul? Lui qui n'était pas apôtre, Dieu, il l'a mis comme apôtre. Et Paul, c'est celui qui nous a révélé tout le mystère. Qui c'est qui lui a enseigné ce mystère? C'est Dieu lui-même. Car après sa conversion, Il est resté 3 ans dans les déserts d'Arabie. Et c'est là que Dieu lui a révélé tous ses mystères. Et Dieu il nous le dit, cherche-moi et je te révélerai des grandes choses. Voilà les premiers désirs de Paul. Prenez chapitre 3, verset 8. On peut prendre le verset 7 aussi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellente de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Un autre désir de Paul, c'est de gagner Christ. Toutes les autres choses, il les regardait comme de la boue. Ce qui lui intéressait, c'est de gagner Christ. Comment est-ce qu'on gagne Christ? Mais dans l'excellence connaissance de la parole. Car Christ, il nous est révélé dans la Bible. Christ n'est pas seulement le Sauveur, le Seigneur. C'est celui qui nous révèle, comme je vous l'ai dit, Dieu. Nous voulons connaître qu'est-ce qu'il est Dieu. Regardons à Jésus. Et si nous avons Jésus dans notre cœur, toutes les choses que nous avions, dans lesquels nous mettions notre espérance. Il ne parle plus. Paul, c'était un rabbin. C'était quelqu'un qui a été au pied de Gamaliel, un des plus grands docteurs de la religion juive. Et pourtant, il a laissé toutes ces choses-là pour s'intéresser à Christ et posséder ainsi l'excellence, connaissance de Jésus-Christ. Pierre, il nous le dit, croissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Pas seulement croissez en âge ou en sagesse, mais croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus seulement comme sauveur, ça ne suffit pas. Ça suffit en tant que salut. Mais Jésus, il est Dieu. Il faut le connaître avec tous ses attributs, avec toutes ses qualités. Sa nature même. Dieu, on ne peut pas, je répète, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas le connaître. Mais nous connaissons Jésus-Christ. Montre-nous le Père. Regarde-moi. Et tu vois Dieu. Parce qu'il est Dieu. Gagner Christ. Voilà. Vivre Christ et gagner Christ. Voilà le deuxième désir qui animait Paul. Continuons au verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. Un autre désir de Paul, c'est connaître Christ. Je l'ai dit ce matin, il y a beaucoup qui connaissent la Bible par cœur. Mais ils ne connaissent pas Christ. Le Seigneur, il nous l'a dit. Mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a évangélisé. Le Seigneur, il leur dit, je ne vous connais pas. Il faut avoir une communion avec le Seigneur. Et cette communion, on ne peut pas l'avoir si on ne partage pas la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne cette connaissance de Christ. Et Paul dit, je veux le connaître. Et il parle aussi la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances en devenant conforme. Ça, vous savez, hein, le baptême par immersion. Chez nous, c'est l'explication de ce que Jésus, par où Jésus il est passé. Et Paul, il voulait vivre ça. Si je dois mourir, je meurs. Parce que Jésus, il est mort pour nos péchés. Et si moi, je dois mourir, je vais le faire. Dans le baptême, on l'a vu dimanche, n'est-ce pas? On suit, c'est un témoignage de tous ceux qui obéissent au Seigneur Jésus. Ils sont immergés dans l'eau, on ne le voit plus. Ils sont morts. Et à un certain moment, ils se relèvent et c'est la résurrection. C'est ça connaître Christ. Voilà le troisième désir de Paul. Vivre Christ, gagner Christ et connaître Christ. Le verset 21. 3:21. Mais nous, nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par les pouvoirs qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quatrième désir, c'est magnifier Christ. Et ici, il parle du moment où il va venir nous prendre. Mais avant qu'il vienne nous prendre, c'est quelque chose que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes, que nous ne sommes pas citoyens d'Argenteuil, mais nous sommes citoyens des cieux. C'est ce qu'il dit, hein? Mais nous sommes concitoyens des cieux. Moi, je ne suis pas italien. Tu as dit, je suis italien, mais je suis, ma maison, c'est là-haut. Et un jour, le Seigneur, il nous l'a dit, un jour, il va nous ramener là-haut, chez moi. Parce que c'est ça ce qu'il nous dit. Attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Et lorsque on affirme devant les gens qui nous entourent, lorsqu'on témoigne que nous attendons Jésus-Christ, nous magnifions Christ. D'ailleurs, c'est Paul qu'en tant qu'apôtre, en tant que dispensateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, frère, je vais vous révéler un mystère. Quelque chose qu'avant, il n'était pas connu. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant. Avant, ceux qui sont morts en Christ. Et ensuite, nous, les vivants, nous serons transformés. Et ça, c'est l'espérance de notre Église. De l'Église de Jésus-Christ. Savoir qu'un jour Jésus-Christ, il doit revenir. Nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons un sauveur, une personne, Jésus-Christ. Après la fin du monde, ça sera par la suite. C'est même pas la fin du monde, ça va être un renouvellement du monde. Parce que Dieu, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et tout ça, pour tous ceux qui ont accompli sa volonté. Et lorsqu'il enlèvera son Église, ici-bas, oui, ça va être la tristesse, la peine, la souffrance. Parce que la colère de Dieu, il va s'abattre ici-bas. Comme je dis toujours, ce n'est pas la colère d'un homme, hein, mais c'est la colère de Dieu. Et tous ceux qui ont refusé de connaître la vérité en Jésus-Christ, ils vont la subir. Nous, nous serons au ciel avec notre Seigneur et Sauveur. C'est ça notre témoignage, magnifier Christ. À quelle église tu appartiens? À l'église biblique baptiste d'Argentin? Non, j'appartiens à l'église de Jésus-Christ. C'est le corps de Christ. Cette dénomination, c'est juste pour se classifier. Mais nous appartenons à Jésus-Christ, car il nous a rachetés de ce moyen de vivre qu'il était contre la parole de Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? C'est ça ce que le Seigneur nous dit. Et chaque fois que nous rendons témoignage, nous magnifions Christ. Et c'est notre devoir de glorifier lui, parce que c'est lui qui mérite de recevoir toute gloire, tout honneur. À l'agneau qui est sous le trône, honneur, gloire, louange, à Christ. C'est ça notre témoignage. Et Paul, il ne faisait que ça. Il voulait magnifier Christ. Brel est toujours chapitre 3, le verset 11 à 14. Prénom 10 aussi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le désir de Paul, c'est de ressembler à Christ. Rassembler à Christ. Mener une vie comme celle de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas. Mais Christ, il l'a fait. Il nous a donné un exemple. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas observer la loi. Jésus, il est venu et il a observé à notre place. La loi, il nous disait, tu es pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus, il est venu, il a pris notre place, il est mort à notre place. Lui, il a pu le faire parce qu'il était sans péché. La loi, il réclamait la mort. Jésus, il est mort à notre place. La loi, qui peut observer la loi aujourd'hui? Personne. Personne. Seulement dans les premiers commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Qui est-ce qui fait cela? Personne. On ne peut pas aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. On ne peut pas. Mais Jésus, il l'a fait. Voilà pourquoi nous devons rassembler en Christ, en toutes choses. Et si, comme il dit ici, les choses passées, c'est rien les choses passées. Je ne m'en souviens même pas. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est aller vers le but que Dieu il m'a préparé. Et quel est le but que Dieu m'a préparé? C'est la venue de Jésus. Et il dit, ce but-là, je ne l'ai pas encore attrapé. Parce que nous sommes vivants, n'est-ce pas? Et un jour, le Seigneur Jésus va nous prendre et il va nous ramener là-haut. Et pour là, c'est en cela que nous devons rassembler dans cette vie-là, à Christ. Et c'est vrai que des fois nous avons du mal, n'est-ce pas? Des fois nous nous comportons dans une façon pas chrétienne, comme on dit. Et on l'a vu ce matin, le diable, il connaît la Bible. Et les adversaires aussi, même s'ils n'ont pas Christ dans leur vie, ils connaissent à peu près la Bible. Et il dit, comment toi, tu es chrétien, tu es ici? Ils se tournent vers toi, ils peuvent te gifler, il a dit, alors, et qu'est-ce que tu fais toi? Hein, avec nos... On retourne la gifle, n'est-ce pas? Comment tu oses me frapper? Mais Jésus, il dit exactement le contraire. Si quelqu'un te gifle, tourne-lui aussi l'autre joue. C'est difficile à faire, n'est-ce pas? Mais Jésus, il l'a fait. Il est resté comme une brebis muette qui le mène au jugement, à la mort. Vous savez, c'est comme ça que les brebis font. Hein? Lorsqu'ils sont amenés à la mort, ils vont, ils suivent les unes derrière les autres. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui l'aurait pu l'ouvrir, comme on dit, hein, là c'est bien Jésus. Hein. Mais il ne l'a pas fait. Pour qui? Pourquoi? À cause de nous. Car si Jésus ne l'aurait pas fait, nous serions encore dans les péchés. Voilà. Rassemblés à Christ. Et le verset 23, chapitre 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, Et d'être avec Christ, c'est qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Le désir de Paul, c'est être avec Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est avec Christ, on n'a plus besoin de rien. Et Paul, il voulait ça. Mais aussi, il y avait Paul, c'était l'évangéliste, c'était le docteur. C'était celui qui devait apporter ces bonnes. Alors il dit, pour moi, je préfère m'en aller. Et d'être avec Christ, c'est qui est de beaucoup meilleur. Être avec Christ, c'est mieux que vivre cette vie. Hein. Et il dit, si je suis là, vivant, c'est parce que j'ai des choses à faire. Ça arrive des fois, dans des moments de tristesse, on dit, Seigneur, ou des maladies même. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Prends-moi avec toi. Et le Seigneur, il nous tient en vie. Pourquoi? Parce qu'on a encore des choses à faire. Il y a un grand, s'appelle Jones, c'est le, je crois qu'il est suédoise. Un jour, il va à la mer, elle plonge, elle donne un coup de tête, et il reste comme ça, figé. Et alors, il a prié, qu'est-ce que je fais, Seigneur, dans cette vie? Et le Seigneur, il a gardé en vie. Il avait juste les yeux et la voix. Sinon, il ne pouvait rien bouger. Paralysé, complètement. Cette femme, elle a réclamé la mort. Mais Dieu l'a gardée en vie. Pourquoi? Elle est devenue un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons un travail à faire. Bien sûr, notre souhait, c'est d'être avec le Seigneur. C'est d'être avec le Seigneur. Voilà le désir de Paul. Être avec Christ. C'est ça notre désir. Le désir d'un chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oui Seigneur, je sais que tu vas venir. Mais attends encore un peu. J'ai une vie encore à vivre. Je dois me marier, je dois faire ça et ça. Attends Seigneur. Où est-ce qu'on est mieux? C'est avec le Seigneur, c'est la meilleure place. C'est la meilleure place. Donc, être avec Christ, voilà les souhaits de Paul. Et pour terminer, hein, encore un souhait de Christ, de Paul, hein, au chapitre 2, le verset 16. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Le dernier désir de Paul, c'est partager la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a manifesté sa gloire en réunissant deux entités qui étaient séparées, les Juifs et les Gentils. Par la croix, il n'en a fait qu'un seul peuple. Et ce seul peuple, il attend de partager la gloire que Jésus, il a maintenant au ciel. Étienne, lorsqu'il a été lapidé, le Seigneur Jésus, il s'est levé de son trône et il l'a accueilli pour lui dire, « Mon enfant, viens, partage ma gloire. » Et c'est ce partage-là que chacun de nous, il doit chercher. À savoir qu'un jour, nous serons dans la gloire. Parce que nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a, Jésus, nous l'aurons aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et vous savez, même dans notre vie aujourd'hui, hein, lorsqu'on est marié femme, ce qui appartient au mari, il appartient à la femme. Moitié-moitié, comme on dit. C'est ce qu'il appartient à Jésus. C'est pas qu'il nous appartient des droits, mais il le partage. Voilà ce que Paul, il voulait. Son désir, partager. Quels sont nos désirs à nous? Les désirs de Paul, c'est de vivre Christ. Les désirs de Paul, c'est de gagner Christ. Les désirs de Paul, c'est de connaître Christ. Les désirs de Paul, c'est magnifier Christ. Les désirs de Paul, c'est de rassembler à Christ. Les désirs de Paul, c'est être avec Christ. Et les désirs de Paul, c'est de partager la gloire de Christ. Quels sont nos désirs? Quels sont nos désirs? Et ça, c'est à chacun de nous de donner une réponse. Mais Paul, il nous sert comme exemple. Comme exemple. Voilà pourquoi, pour terminer, j'aimerais que reprendre les psaumes 130. Ce qu'il a lu, les frères. Si je le trouve, normalement il y est. On vient de le lire. Quels sont nos désirs? Comment avoir les désirs que Paul il avait? Il y a une seule solution. C'est le verset 7. Et je vous invite, on va le relire encore ensemble. Le verset 7. Mais à la place de dire Israël, mettez votre nom. Il va y avoir une certaine cacophonie à un certain moment, parce que chacun va répéter son nom. Mais au lieu de mettre Israël, mettons notre nom. Et vous verrez comment Paul, il pouvait avoir ses désirs. Et si nous mettons en pratique cela, nous aurons le même désir que Paul. Il nous intéressera une seule chose. Vous êtes prêts? Je vais entendre cette cacophonie. Que tout le monde y répète son nom. Parce que c'est ça l'enseignement de ces versets. Commençons. Aldo. Mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui. Voilà, ici c'est bon. Et la rédemption est auprès de lui. Il aurait pu se terminer là, n'est-ce pas? Mais il dit en abondance. Car Dieu, lorsqu'il intervient, il intervient toujours à l'abondance. Que le Seigneur nous aide à avoir les désirs qui sont conformes à la parole de Dieu. Amen.
Amen.